Nous accueillons ce soir donc Denis Gracias, qui est né en 1947. Il est ingénieur de l'École nationale supérieure de chimie de Paris, docteur d'État en sciences physiques. Il a une carrière donc, de chercheur. Il est actuellement directeur de recherche au CNRS et professeur chargé de cours à l'École polytechnique et à l'École nationale supérieure de chimie de Paris. Sa spécialité, c'est l'étude géométrique des interfaces engendrées par les transitions de phase dans les cristaux homogènes et les aspects thermodynamiques de ces transitions. Il est membre correspondant de l'Académie des sciences, titulaire de nombreux prix, médaille d'argent du CNRS par exemple, prix de l'Académie des sciences. Ces publications sont des publications techniques scientifiques, donc je n'ai pas de petits livres à indiquer de lui, de chez Armand Collin ou Odile Jacob ou je ne sais qui. Donc il faut se reporter aux revues techniques. Vous pourrez lui demander si jamais vous avez des besoins de ce côté-là. Et il va nous parler ce soir de cristaux et quasi-cristaux.
Merci beaucoup, Monsieur Michaud. Comme probablement tous les orateurs ici, j'ai évidemment le trac. Mais ce soir, j'ai quelque chose de plus. J'ai une grande émotion parce que je suis tout à fait surpris qu'il y ait autant de monde pour s'intéresser à la science et je vous en remercie très profondément. Cela étant, je voudrais donc vous parler de cristaux et quasi-cristaux. Sujet un peu, comment dirais-je, un peu austère, a priori, puisqu'il s'agit de matière morte. Il s'agit même de la matière la plus morte qui soit, le cristal. Quand quelqu'un est cristallisé, c'est qu'il est en très mauvaise forme, n'est-ce pas? La question que je me propose de discuter avec vous, c'est pas tant de faire une revue exhaustive de la cristallographie, puis de la quasi-cristallographie, mais d'essayer de sortir un petit nombre de points, lesquels me semblent importants pour que vous compreniez l'évolution actuelle de cette science, qui est apparue à bien des égards, en tout cas dans les 30 dernières années, comme une science un peu morte, ou plutôt un peu achevée, achevée au sens où on avait l'impression qu'il n'y avait plus grand-chose à y trouver. Il se trouve que la découverte de ces objets, les quasi-cristaux que j'ai symbolisés ici, on va en parler un peu plus longuement, a ravivé un certain nombre de concepts fondamentaux, triviaux pour certains, c'est-à-dire des concepts où on ne se posait pas les questions de savoir le sens qu'ils avaient tant ces sens étaient évidents. Et donc je voudrais discuter avec vous quelques points particuliers de la cristallographie dans précisément ceux qui ont évolué aujourd'hui et on s'aperçoit que de cet ordre simple que s'appelle la répétition d'un motif périodiquement dans l'espace sont venus maintenant toute une série d'ordres déterministes mais de complexité de plus en plus grande. Et la question qui se pose, c'est que manifestement de cette science morte nous passons maintenant à une science dont on ne sait pas encore jusqu'où elle va aller dans les réalisations naturelles. Alors, qu'est-ce que la cristallographie? Eh bien, la cristallographie, vous l'aurez compris, bien sûr, par son nom, c'est l'étude des cristaux. On aime bien donner des dates de naissance, hein, pas seulement aux êtres humains, et donc l'idée, c'est de dire qu'elle est née en gros au XVIIIe siècle avec les travaux d'un abbé, l'abbé Ahui. Bien entendu, elle est née en fait bien avant. Depuis l'Antiquité, les gens se sont toujours intéressés aux pierres précieuses, bien sûr, qui sont les premiers représentants nobles, si j'ose dire, des cristaux. Puis ensuite, des cristaux naturels qu'on rencontre dans la nature. Ces cristaux, ils ont un aspect esthétique, ils ont une espèce d'idée de perfection, ils ont même, pour certains, des vertus un peu particulières. Et de les regarder, un côté fascinant, ça piège la lumière, etc. Ça a des figures de clivage, ce sont des plans bien définis. Mais leur étude un peu rationnelle, si j'ose dire, date de la BEUI. On dit, je vous rapporte l'anecdote, elle est courte, que ceci proviendrait d'une erreur de manipulation de la part de la BEUI. Vous savez, nombre de découvertes scientifiques sont dues à des erreurs. Hein. Et celui-ci, en effet, aurait manipulé un cristal précieux d'un de ses collègues. Les gens étaient minéralogistes et collectionnaient les cristaux, et l'aurait laissé tomber, ce qui peut arriver. Hein. Évidemment, le cristal s'est brisé en mille morceaux. Il a ramassé les morceaux et s'est aperçu que tous les morceaux présentaient des facettes, bien sûr différentes, certains des gros morceaux, des petits morceaux, des grandes facettes, des petites facettes, mais toutes présentaient des facettes dont les orientations dans l'espace, c'est-à-dire les normales perpendiculaires au plan de ces facettes, étaient toutes identiques. C'est-à-dire que, cassant le cristal, il retrouvait, à une échelle plus petite, à des homothéties près, à des changements de taille, des orientations qui étaient toutes les mêmes. Et il s'est dit, pourquoi ne pas classer les cristaux, non pas d'après leur forme, ce qui se faisait avant lui, mais d'après l'orientation des facettes qui se créent naturellement quand on les casse. Et ça a été une idée absolument géniale. C'est une idée géniale parce qu'il s'est aperçu que plus ce cristal était petit, plus on le cassait, les facettes, quant à elles, restaient dans les mêmes directions. Ça lui a donné l'idée, pratiquement, du côté atomistique des cristaux. Il n'a pas été jusque-là, mais il n'en était pas loin. Aujourd'hui, depuis le début du XXe siècle, la définition des cristaux n'est pas celle de les classer dans des familles minéralogiques, comme l'avait proposé la BAUI, faisant cela déjà un très grand pas, vous allez en voir juste un petit morceau, c'est de partir de la structure atomique. Comment sont faits ces cristaux à l'échelle des atomes ? À chaque fois qu'on veut comprendre quelque chose, je pense que nombre d'orateurs le disent et redisent, n'est-ce pas ? Il convient de comprendre le théâtre dans lequel se situent les opérations, et ce théâtre, c'est à l'échelle des atomes. Un atome est placé à un endroit, il a des voisins immédiats, et selon la nature de l'atome, selon la nature des voisins immédiats, le produit macroscopique que nous observons, qui sont des milliards et milliards d'atomes, eh bien, va avoir des propriétés différentes. Les propriétés sont à rechercher à l'échelle de l'atome. Et c'est la raison pour laquelle la cristallographie est devenue une science finalement assez importante, au sens où c'est une condition sine qua non pour ensuite étudier les propriétés physiques des solides. Alors, première définition des cristaux, et ce que je veux vous montrer, c'est que cette définition est d'une extrême simplicité, mais qu'elle a des conséquences qui sont extrêmement importantes. Un cristal, c'est un solide dont les atomes sont répartis périodiquement dans l'espace. Nous en avions tout à l'heure un petit exemple sur la petite page de titre. Vous voyez à gauche, ici, un dessin qui représenterait par exemple la structure du NaCl, du chlorure de sodium, où nous voyons répartis de façon périodique des atomes bleus et des atomes d'une autre couleur, hein, et qui représentent respectivement le chlore et le sodium. Et ce que vous voyez, c'est qu'ils se reproduisent périodiquement. L'image donc la plus simple qu'on garde d'un cristal, c'est une planche de timbre. Vous avez un timbre et puis un autre à côté, ils se juxtaposent les uns les autres, ils alternent comme ça. Donc, atome, c'est périodicité dans l'espace. Cristal, c'est périodicité dans l'espace. Avouez que c'est un petit peu uniforme, cette affaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris comment étaient placés deux atomes, tout à l'heure les bleus et les rouges, eh bien, il suffit ensuite de les recopier à l'identique, dans toutes les trois directions de l'espace, x, y, z. Une conséquence, deux conséquences importantes que je garde pour cet exposé, sont les suivantes. La première, c'est que les cristaux ne présentent comme symétrie que certains types de symétrie. Qu'est-ce que j'entends par symétrie ? Vous l'aurez bien compris, il s'agit de regarder quel genre d'opération je peux faire pour superposer l'objet sur lui-même. Ce sont des opérations de rotation, par exemple, ou des opérations d'inversion, comme un miroir, quand on se regarde dans un miroir. Et il se trouve que les symétries qu'on peut observer dans les cristaux, à cause d'une conséquence de la périodicité, je me propose un petit transparent mathématico, enfin avec une petite formule, pour vous démontrer cette chose-là, parce qu'elle est très importante. Les seules symétries possibles qu'on peut rencontrer à cause de la périodicité, c'est les symétries d'ordre 2, c'est la symétrie du rectangle. Vous voyez que ce rectangle, je peux le retourner d'un axe de 180 degrés par rapport à son centre. Symétrie d'ordre 3, la symétrie du triangle. Symétrie d'ordre 4, la symétrie du carré. Il n'y a pas de symétrie d'ordre 5. Et il y a une symétrie d'ordre 6, la symétrie de l'hexagone. Les dessins que j'ai posés ici sont très exactement ceux que votre carreleur pourra vous proposer comme motif de tomette. Il ne vous proposera jamais un pentagone, parce qu'il sait qu'il va démissionner. Hein ? Il ne pourra pas paver avec un pentagone, il va essayer, il va laisser des trous, ou il va être obligé de découper ces pentagones afin de pouvoir remplir les interstices restants. Ça, c'est le premier point qu'on va discuter un petit peu. Et puis le second point, un peu plus délicat, c'est que se passe-t-il lorsqu'on envoie un faisceau de particules sur des cristaux ? Alors quand j'entends faisceau de particules, ce peut être aussi bien des photons, de la lumière, que des électrons, que des neutrons, qui sont essentiellement les particules qu'on envoie aujourd'hui, je veux dire. Et puis bon, il y a quelque chose d'exotique, on peut envoyer des protons, par exemple, si on a un canon proton, mais prenons déjà simplement les trois. Ordinairement, quand vous envoyez un faisceau de particules sur une matière amorphe, sur une matière non organisée, ce qui se produit, c'est que chaque atome va servir en quelque sorte de déviateur des particules incidentes et va envoyer les particules incidentes de façon sinon isotrope, de façon assez irrégulière, de façon diffuse dans tout l'espace. En sorte que quand elles sont placées derrière la cible, eh bien, d'un faisceau de particules qui est un faisceau bien fin arrivant sur la cible, va ressortir derrière une espèce de nuage. Les particules vont diffuser, on dit de la diffusion, dans toutes les directions. Quand on fait ça sur un cristal, il se produit quelque chose de remarquable qu'on appelle le phénomène de diffraction. Au lieu de diffuser dans toutes les directions, les particules vont diffuser dans des directions privilégiées, discrètes dans l'espace, comme des faisceaux de lumière fins qui partent dans des directions précises. Ces directions précises, bien sûr, sont en liaison directe avec la nature et la structure du cristal qui est irradié. Ça s'appelle le phénomène de diffraction. Et nous allons discuter ces deux points-là afin que vous voyez pourquoi, en 1984, la découverte des quasi-cristaux a posé un problème absolument considérable. Venons d'abord sur les symétries cristallines et les conséquences. Je vous ai dit, deux symétries cristallines ne survivent, quand un objet est périodique, un cristal, que les symétries d'ordre 2, je vous rappelle, c'est le rectangle, d'ordre 3, le triangle équilatéral, d'ordre 4, le carré, et d'ordre 6, l'hexagone régulier. À partir de quoi, et ça, ça a été le travail de Haüy, qui ne l'a pas formulé de la sorte, mais peu importe, c'est le même travail, n'est-ce pas, il est arrivé à classifier tous les cristaux, que ce soit les cristaux de la Terre ou les cristaux qui peuvent exister sur n'importe quel système. Je veux dire, il s'agit bien de géométrie. Cette géométrie est supposée euclidienne, bien sûr, mais elle est supposée être vraie, elle est localement euclidienne partout, sur n'importe quel endroit de l'univers. En 7 systèmes cristallins, en 32 groupes de symétrie et 230 groupes d'espace. Cet énoncé s'est fait jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Arrivé là, c'est ça qui a un peu donné l'idée que la cristallographie était une science morte, puisqu'on avait, en quelque sorte, fait une liste exhaustive de tous les arrangements possibles, périodiques, des atomes dans la nature. Une fois qu'on a dit, ben, voyez, 230 groupes d'espace, vous amenez n'importe quel morceau météoritique cristallin, et ils le sont pour le nombre d'entre eux, il doit appartenir à l'un de ces groupes. C'est une liste exhaustive et il n'y en aura pas 231. Demain, si quelqu'un prétend dans un article scientifique avoir trouvé un 231e groupe d'espace, c'est une supercherie. Il n'y a aucun problème, c'est de la mathématique, tout simplement. Donc, savoir décompter ça, on sait le faire. Le point intéressant, c'est donc un nombre discret et terminé, si j'ose dire, de symétrie. Je voudrais juste passer ici quelques instants. Alors, il y a deux solutions, ou bien ce genre de choses vous intéresse, mais ne vous pas. Dans un cas, vous le croyez, dans l'autre cas, bah, on suit un peu. Je voulais vous montrer juste une petite ébauche de démonstration selon laquelle le nombre de symétries est discret. Il n'y a que 2, 3, 4 et 6. Alors, pourquoi ? C'est parce que la démonstration est très courte, elle est très simple, elle a une certaine élégance, si j'ose dire. Vous savez pour certains, en tout cas, ou pour nombreux d'entre vous, que lorsque je prends un vecteur de coordonnées x, y, et que j'en fais une rotation d'angle θ, il devient donc un vecteur de coordonnées x', y'. Une petite formule de mathématiques me dit que la coordonnée x' s'exprime comme une combinaison linéaire des coordonnées x, y, donc le vecteur va tourner comme ça, et qui est x cosinus θ moins y sinus θ, et que la coordonnée y' va se transformer en x sinus θ plus y cosinus θ. Les mathématiciens aiment bien écrire ça sous forme d'un tableau. Le tableau qui consiste à écrire les coefficients qui sont en regard des variables qui représentent les coordonnées du vecteur. On l'écrit comme ça, on appelle ça une matrice. Et ce qui se produit ici, c'est que nous devons rechercher quelle doit être la forme de ces matrices, c'est-à-dire la valeur des coefficients cosinus θ et sinus θ, qui sont-elles qu'elles prennent un point de coordonnées entière, car je suis sur un réseau. Un réseau, c'est quelque chose qui est triplement périodique. C'est donc un nombre entier de fois une unité de longueur selon z, un nombre entier de fois une unité de longueur selon x, un nombre entier de fois une unité de longueur selon y. Donc ce vecteur a des coordonnées x, y, z. Ici, j'en ai mis que deux. X, y, gardons-les, entières. Et le réseau est invariant si tout point du réseau, sous l'action de la rotation θ, se transforme en un autre point du réseau. Et donc se transforme en un point x', y', qui est lui-même à coordonnées entières. Il faut donc que l'application de cette matrice, qui possède des cosinus θ et sinus θ, lesquels n'ont aucune raison d'être entiers, bien sûr. Seule valeur possible, c'est 0 ou 1 ou moins 1, n'est-ce pas ? Et il faut donc que nous trouvions un moyen de voir quelles sont les restrictions des valeurs de θ qui conduisent pour tout doublet, puisque je suis ici à deux dimensions, pour tout doublet d'entiers, x, y, à x', y', eux-mêmes des entiers. Vous voyez, ayant posé le problème de la sorte, je dis bien que c'est le réseau qui est invariant. Tout doublet d'entiers se transforme en un doublet d'entiers. Et pour cela, on garde un bon théorème de mathématiques qui nous dit que la trace d'une matrice est invariante par changement de base. Peu importe. Ça veut dire que la somme ici des deux éléments qui sont les éléments diagonaux de ce tableau, cette somme est invariante quelle que soit l'expression dans laquelle je l'exprime, quel que soit le référentiel dans lequel je l'exprime. Il existe un référentiel dans lequel ceci doit se traduire par des nombres entiers. Faute de quoi, si j'avais par exemple le nombre 1/2, nombre simple s'il en est, eh bien il suffit qu'au lieu de prendre x, je prenne x sur 2, pour obtenir x' qui n'est non entier. Comme ça doit être entier, ça veut dire que la somme ici, cosinus θ plus cosinus θ, 2 cosinus θ, doit être un entier. Et vous voyez, à ce moment-là, les solutions tombent toutes seules. Cosinus θ varie entre 1 et moins 1. 2 cosinus θ est un entier, donc il peut valoir 1, 0 ou moins 1. Et cosinus θ peut donc valoir 1, 1/2, 0, moins 1/2, moins 1. S'il vaut 1, la rotation est θ égale 0, c'est-à-dire que l'identité, ne pas toucher au cristal, le laisser comme ça, le laisser invariant, c'est une trivialité. S'il vaut 1/2, l'angle ici est de 60 degrés, c'est-à-dire que je peux avoir des rotations d'angle de 60 degrés qui transforment un doublet d'entier en un autre doublet d'entier. S'il vaut 0, l'angle est de 90 degrés, c'est la droite rouge ici par rapport à l'horizontale. S'il vaut moins 1/2, c'est un angle de 120 degrés. Et enfin, s'il vaut moins 1, c'est un angle de 180 degrés. 180 degrés, nous reconnaissons la symétrie 2, celle du rectangle. 120 degrés, celle du triangle. 90 degrés, celle du carré. Et enfin, 60 degrés, celle de l'hexagone. Vous voyez que la démonstration est simple. Elle est partie de l'idée que l'on savait écrire la matrice de rotation dans un espace de dimension 2. Dans un espace de dimension 3, c'est la même chose avec une colonne de 1. Donc ça ne change rien. Je fais cette petite aparté parce qu'elle pourra m'être utile un peu après. Je vous ai parlé de la deuxième propriété intéressante qui était la diffraction. Alors la diffraction, c'est une chose assez extraordinaire. Entre parenthèses, elle a été faite, c'est une expérience historique du début du siècle qui a été faite par von Laue. Von Laue a eu cette idée, à l'époque, le problème se posait de la nature ondulatoire des rayons X, d'une part, et de l'aspect périodique discret, ensemble d'atomes qui se reproduisent de façon périodique dans l'espace, des cristaux. Et von Laue a eu cette idée extraordinaire de mélanger les deux problèmes, en disant, ce que je vais faire, je vais envoyer des rayons X sur un cristal. Alors, il y a deux solutions. Oh non, il n'y en a pas deux, il y en a plusieurs. Première solution, la bonne. Les rayons X ont bien un comportement ondulatoire, les cristaux sont bien des objets périodiques. Alors, dit von Laue, il doit se produire un phénomène de diffraction, ce que nous allons discuter. Deuxième solution, les cristaux sont bien périodiques, mais les rayons X n'ont pas de caractère ondulatoire. Alors, il ne doit pas se produire de phénomène de diffraction. Troisième solution, les rayons X sont bien des ondes, sont bien un phénomène ondulatoire, mais les cristaux ne sont pas des objets périodiques discrets, mais une espèce de gélium amorphe, je ne sais quoi, à partir de quoi il n'y aura pas de diffraction. Faisant l'expérience et trouvant de la diffraction, c'est-à-dire que le faisceau de rayons X s'est scindé en faisceaux bien définis dans des directions bien définies, von Laue a fait la double démonstration du caractère ondulatoire des rayons X et de la périodicité des cristaux. C'est une manip qui était rentable, puisqu'il a fait deux démonstrations en une seule. Alors, ce qui se passe, c'est que quand une onde, donc nous allons parler en termes d'onde, il y a eu un certain nombre de conférences de mécanique quantique où vous savez que parler onde ou parler particules, c'est la même chose. Ici, on pourrait faire un exposé typiquement uniquement de mécanique quantique, d'interaction. Ce n'est pas du tout l'objet. Je garde juste l'aspect ondulatoire. Hein. Le point est donc qu'envoyer un faisceau de particules sur un cristal, nous allons avoir une onde, un peu comme imaginer une vague qui vient sur une côte, par exemple. Hein, et l'onde va arriver sur la particule, va être rediffusée par la particule, des ondelettes, un petit peu dans toutes les directions, puis elle va arriver sur une autre particule, rediffusée, etc. Et chaque atome va rediffuser à son tour. Ceci fait un bruit de fond considérable. Imaginez que vous ayez une belle onde plane qui arrive sur un étang et que vous commenciez à jeter des cailloux un peu partout. Vous allez créer essentiellement un bruit de fond, c'est-à-dire qu'il ne se passera rien. Il ne se passera rien, et donc l'onde incidente va être, si j'ose dire, bringue-ballée dans toutes les directions, en sorte que quand nous allons mettre un détecteur de l'autre côté, nous allons observer un espèce de bruit diffus, comme une foule, en quelque sorte, et non pas d'un signal bien clair où tous les atomes se mettent d'accord pour envoyer l'onde au même moment. Supposez maintenant que les atomes sont ordonnés de façon périodique et que toutes les ondelettes envoyées par les atomes diffèrent deux à deux par un déphasage de 2π, c'est-à-dire qu'une onde, c'est une sinusoïde, eh bien, soit elles sont exactement en phase, les deux sinusoïdes arrivent en même temps, soit elles sont décalées de 2π, ce qui signifie qu'elles sont en phase, parce que deux sinusoïdes décalées de 2π, c'est la même chose, d'accord ? Et donc, s'ils sont tous des multiples de 2π, alors là, les choses sont beaucoup plus extraordinaires. Chaque atome va contribuer dans une direction privilégiée, précise, bien définie, à envoyer de l'intensité lumineuse ou à faire diffracter, à faire diffuser l'onde en question, et toutes ces interférences vont être constructives. À partir de quoi il va se produire un phénomène remarquable il va y avoir une sorte, je n'ose pas dire de canalisation car c'en est pas une, mais vous pouvez presque l'imaginer, une espèce de canalisation des électrons ou des rayons X ou des neutrons ou des protons, n'importe quoi, hein, particules quoi, dans des directions privilégiées. Et à la sortie, au lieu d'observer un spectre, on appelle ça le spectre, au lieu d'observer une espèce de bande diffuse, un nuage, on va observer des points comme ceux qui sont représentés ici. Le faisceau, ici, dans ce dessin, le faisceau principal est perpendiculaire au plan. Et ce que nous voyons, c'est les faisceaux qui se sont scindés, comme ça, dans des directions privilégiées extrêmement fines, bien précises. Alors, le point qui apparaît ici, c'est que cette diffraction, un petit mot juste pour que vous la saisissiez bien au sens... Vous inquiétez pas de ces formules, je les commente. Hein. Le point est de savoir dans quelles conditions une direction déterminée, que je repère par le mot K' par rapport à la direction K, qui est la direction incidente, une direction déterminée est-elle une direction privilégiée pour que toutes les ondelettes émises par tous les atomes soient en phase, c'est-à-dire que les sinusoïdes se superposent les unes aux autres afin d'augmenter, comme ça, ça fait une somme, ça fait augmenter le signal. Alors, je vous donne juste un petit peu l'idée. Hein, une onde, je vous l'ai dit, ici, on va la voir comme l'arrivée d'une vague, une vague parfaitement droite, hein, pas quelque chose de compliqué. Et cette vague, on la repère par un plan de phase. L'ensemble des points de l'espace qui ont la même phase, la même amplitude. Nous sommes sur un bateau et nous regardons tous les points qui sont à la même altitude que nous lorsque nous sommes sur une houle. Et nous avançons vers la côte. Donc nous sommes partis ici et nous allons avancer tout doucement vers la côte. À un moment, paf, nous rencontrons l'atome A. Et l'atome A, nous le rencontrons avant l'atome B. L'atome A va donc commencer à diffuser une ondelette. C'est la petite ondelette bleutée ici. Et si nous calculons, faites-moi confiance, si nous calculons le temps, le déphasage, c'est-à-dire le décalage qui va exister entre l'ondelette émise et puis l'onde plane qui continue d'avancer ici, il est proportionnel à un produit scalaire K vectoriellement R, peu importe. Lorsque, maintenant, l'onde B, l'atome B reçoit l'onde incidente. Il l'a reçue donc avec un petit déphasage, n'est-ce pas, de moins 2 pi r. Il va donc émettre dans cette direction. Mais cette fois, par rapport au A, il est en avance. Regardez bien le plan qui va pouvoir être émis. Vous voyez, il est ici. C'est-à-dire qu'au moment où il y a l'émission ici, il y avait tout ce chemin à faire pour l'atome B. Autrement dit, nous avons une avance de phase pour l'atome B de K'R et un retard de phase pour l'atome A de Kr. Quel est le déphasage global? La différence des deux. 2 pi K' moins Kr. Et c'est ça que nous voulons, K' moins Kr, être un entier. Si c'est un entier, la différence de phase, c'est 0, 2 pi, 4 pi, etc. Donc quelque chose qui va faire des interférences constructives. Et donc le résultat de ce petit calcul ici, c'est de nous dire que la différence des vecteurs d'onde, ces vecteurs K, qui sont les vecteurs qui indiquent la direction de l'onde, la différence des deux vecteurs d'onde, particule incidente, particule diffractée, doit être telle que son produit scalaire avec la distance ici entre les deux atomes soit un entier. Si maintenant il y a un autre atome C ici, à la même distance, de A à B, nous aurons deux R, et puis un atome D, trois R, etc. C'est ça la périodicité. Vous voyez que si AB est en phase, AC est en phase, AD est en phase, etc., puisque ce sont des multiples de R, 1R, 2R, 3R, nous aurons 2π, 4π, 6π, etc. Et à ce moment-là, nous aurons donc de la diffraction. Observez bien que la diffraction apparaît parce que les atomes C, D, etc., sont l'un et l'autre, eux aussi, à des multiples entiers de la distance R. S'ils n'étaient pas des multiples entiers de la distance R, ces deux-ci enverraient de l'ondelette en phase, mais le troisième ne le serait pas et viendrait détruire l'effet d'interférence constructive. En sorte que est arrivée l'idée très rapidement que diffraction, c'est-à-dire voir un phénomène dans un microscope électronique ou avec des rayons X, qui consiste à canaliser et à centraliser les faisceaux dans des directions privilégiées, était synonyme de cristal. Alors il est arrivé quelque chose de tout à fait amusant, rocambolesque et croquignol, vous allez voir, ça c'est assez... C'est ce diagramme ici. Vous voyez ce dessin ici. Ce dessin est arrivé en 82 par une expérience de Danny Scheichmann. Celui-ci travaillait sur les alliages aluminium manganèse, rapidement solidifiés, et pour des causes évidemment autres que celles dont nous parlons ce soir. Et au microscope électronique, il a observé, au mois d'avril 82, un spectre de diffraction, qui est l'image que vous voyez ici. Que je vous dise bien comment cette image est obtenue. Nous avons notre alliage aluminium manganèse, qui est une petite plaque. Nous envoyons un faisceau d'électrons dessus, et puis nous mettons un plan film, c'est l'objet qui est ici, en dessous, un peu plus loin. Il y a des montages optiques pour permettre de bien faire des images correctes, mais c'est ça le principe. Alors il y a deux solutions à nouveau. Ou bien le faisceau d'électrons, car ici ce sont des électrons, ça marche bien entendu avec n'importe quelle particule, neutron, etc. Hein. Ou bien le faisceau en question est diffusé un peu dans toutes les directions, auquel cas nous allons avoir une espèce de halo. Ou bien il est diffracté, parce que nous avons un cristal, et nous allons avoir des petits points. Les petits points, ce sont les directions dans lesquelles... Et ce que nous voyons, c'est une coupe. Donc vous voyez les directions. Alors nous avons un point central, ça c'est l'ensemble des électrons qui n'ont pas été, diffractés, et puis toute une collection de points avec des intensités qui sont plus ou moins fortes, peu importe. Et quand on regarde ce diagramme, ce que vous observez, c'est que si vous comptez les points, par exemple ceux qui sont les points intenses ici, si je pars d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire que je me retrouve ici avec un diagramme qui a la symétrie du décagone, et donc la symétrie du pentagone, et donc ne peut pas être un cristal, et donc ne peut pas diffracter, et donc ne peut pas faire de petits points, et fait des points quand même. Alors ça a été un problème épineux. À l'époque, il y a un certain nombre d'hypothèses qui pouvaient sortir, je vous en donne quelques-unes. Son diagramme a été découvert, il l'a trouvé, il l'a observé en 1982. J'insiste sur le fait assez intéressant que tous ceux qui, par la suite, ont gardé ces quasi-cristaux au tout début, je veux dire, la première fois qu'on voit ça, quand on a fait de la cristallographie toute sa vie, ça crée aussi une certaine émotion, parce qu'on se dit, ça, c'est quand même un truc qui est impossible. Bien entendu, ses collègues ont commencé à dire à Schechmann, va lire un peu de cristallographie et tu t'apercevras que le whisky, il ne faut pas en abuser. D'autres ont dit, bah, probablement, ce que nous voyons là, c'est un artefact, et en fait, c'est non pas un cristal, mais une multitude de cristaux qui, pour des raisons X, sont désorientés les uns des autres d'un angle correspondant au pentagone. Ce qu'il a fait, il a donc été regardé s'il y avait bien plusieurs cristaux ou pas. Toutes ces expériences, pendant 2 années, ont été négatives. Il ne voyait qu'un seul objet. Tous les figures de diffraction qui sortaient ici provenaient du même endroit de l'espace. De l'espace d'observation, bien sûr. Une autre solution, c'est de dire que ben, ça n'a pas tout à fait la symétrie de l'icosaèdre, du pentagone. En fait, les points ils ne sont pas exactement sur le pentagone, ils sont un petit peu détachés, ils sont un petit peu décalés, en sorte qu'on peut essayer de mettre un réseau sous-jacent là-dessus. Ça, c'est une solution intéressante. C'était une solution intéressante, mais qui posait plus de problèmes qu'elle n'en résolvait. On peut effectivement faire un maillage. Entre parenthèses, sur un ordinateur, on fait un maillage pour faire ce dessin, n'est-ce pas? Et ce maillage, il est périodique. On peut effectivement faire un maillage, mais alors se poser la question alors, si je fais un maillage ici d'un millième de millimètre, je devrais avoir des points tous les 1 millième de millimètre. Et pourquoi je n'ai des points que sur certains endroits et pas ailleurs? Autrement dit, voilà un objet qui serait cristallin, qui aurait le droit de diffracter dans toutes les directions permises telles que KR égale N, et qui ne se permettrait de le faire que pour certaines valeurs particulières de N. Ce problème est un problème extrêmement difficile d'un cristal qui aurait une maille absolument énorme, de plusieurs milliers d'angström, voire davantage, et ne viendrait finalement résoudre à peu près aucun des problèmes posés par ce cliché, d'autant que les expériences les plus précises qu'on ait faites aient toujours démontré qu'il y avait la symétrie du pentagone, de même que quand on regarde un cube, eh bien on voit toujours la symétrie du cube. Alors la solution est arrivée évidemment par un biais tout à fait différent, un biais des mathématiciens, et je remonte cette fois froidement au XIIe siècle. Il s'agit de l'abbé Fibonacci, Leonardo. Fibonacci étudiait les lapins, la reproduction des lapins. Pourquoi pas? Il étudiait la reproduction des lapins en faisant un modèle extrêmement simple. Alors, ce ne sont que des lapins femelles, vous m'en excuserez, mais ça change un peu, justement, c'est plutôt bien. Un petit lapin devient une lapine, et la lapine fait un petit lapin, qui devient une lapine, qui fait un petit lapin. Alors, maintenant, traduisons la chose. Je pars de mon petit lapin qui devient une lapine. C'est elle. Elle va donc faire un petit. Donc, elle, je vais le remplacer par la lapine et le petit lapin. Je ne cherchais pas à comprendre pourquoi il s'appelle S ici, j'en ai pas la moindre idée. Le petit lapin, quant à lui, va grandir et devenir une lapine. Donc le petit lapin, dans l'étape qui suit, c'est une étape temporelle, je vais le transformer en une lapine. Laquelle, bien entendu, va faire son métier de lapine en faisant un petit lapin. Je pars donc de ma lapine, elle. Elle fait un petit lapin, LS. L'année d'après, elle continue, ah oui, parce que c'est une lapine, elle continue à faire un petit lapin, LS. Et puis le petit lapin ici est devenu une lapine. Celle-ci continue à faire un petit lapin, celui-ci est devenu une lapine, cette lapine maintenant fait un petit lapin, etc., etc., etc. Donc vous voyez les séquences, à chaque fois que j'ai S, je remplace par L, à chaque fois que j'ai L, je remplace par LS. Ça fait donc une séquence comme ça qui va croissante. Et alors cette séquence a des propriétés incroyables. Première chose que vous pouvez opposer, c'est de dire, bon, au bout d'un certain temps, cette pauvre lapine qui est bien entendu éternelle dans notre exemple, est-ce que ça ne va pas se reproduire, le dessin de L et de S ici? La réponse est non. Ce n'est jamais la même chose. Mais c'est presque la même chose. Alors, le point tout à fait extraordinaire est venu en 85 avec deux Français, Katz et Duneau, qui ont eu imaginé cette idée extrêmement simple de dire je prends la séquence L, S, L, S, L, L, etc. Et j'imagine que L, ça veut dire long, S, ça veut dire short, c'est-à-dire court. Et je suppose que le L correspond à la projection d'un côté d'un carré et que le S correspond à la projection de l'autre côté d'un carré. Et je dessine ma suite de Fibonacci, L, S, L, L, S, etc. Et à chaque fois que j'ai un L, je vais décrire une droite le long d'un des côtés du carré. À chaque fois, excusez-moi, j'ai un L, je le décris le long d'un des côtés du carré. À chaque fois que j'ai un S, je le décris de l'autre côté. Donc vous voyez, si je prends cette séquence, je vais avoir L, donc je descends ici, S, puis L, puis L, puis S, puis L, puis S, puis L, puis L, puis S, etc. Et je trace ça. Et alors, ce qui se produit est extraordinaire. Ce que nous voyons de cette suite de Fibonacci, qui semblait assez mystérieuse, qui a des propriétés mathématiques absolument délicieuses, eh bien ce que nous en voyons, c'est que simplement, cet objet, c'est ce que nous obtiendrions d'un réseau carré lorsque nous le coupons par une droite dont l'orientation est irrationnelle par rapport à ce réseau, et nous n'en conservons que la partie supérieure. Autre façon de le dire, l'objet que j'obtiens ici, je dessine un réseau carré. Il est bien entendu orienté de façon irrationnelle par rapport à la droite horizontale. Je coupe par cette droite horizontale. Vous pouvez voir ça sur un bout de papier, hein, un papier quadrillé. Pof, vous coupez par une droite, surtout qui soit irrationnelle, quoi. Qui est une droite n'importe quoi. Surtout. Très important qu'il soit n'importe quoi. Et puis, à chaque fois qu'il y a un petit carré qui est coupé par la droite, vous le grisez. Alors, vous obtenez comme ça une séquence de carrés grisés qui sont adjacents les uns des autres et qui forment une marge d'escalier. C'est celle que vous avez dessinée ici. Cette marge d'escalier n'est pas périodique. Elle n'est pas périodique parce que la droite que vous avez dessinée est quelconque. Autrement dit, si vous décidez de faire passer la droite par un point du quadrillage, elle ne passera que par un seul. Et elle ne passera jamais par un autre. Si par malheur elle passe par deux points du quadrillage, alors nécessairement la même distance, elle passera par un autre, etc. Elle passera par un nombre infini de points du quadrillage, vous aurez un objet périodique. Ici, il se trouve que l'orientation du carré par rapport à la droite, c'est le nombre d'or. Bon, c'est fortuit, si j'ose dire. Toujours est-il donc que Katz et Duneau s'aperçoivent que des suites non périodiques, comme cette suite de Fibonacci, cette séquence, peuvent être interprétées comme étant une coupe irrationnelle d'un objet qui, lui, de plus grande dimension, est périodique. Ça s'appelle la quasi-périodicité, d'où le mot quasi-cristal. Est-ce que j'ai résolu mon problème? Pas encore, mais vous sentez bien qu'on y arrive. Hein. Alors, maintenant, si je veux regarder de quoi il retourne, eh bien, je n'ai qu'à vous donner d'abord la définition. Un objet quasi-périodique est quasi-périodique s'il peut être décrit comme la coupe tridimensionnelle selon une orientation irrationnelle d'un objet périodique dans un espace de dimension supérieure. Alors, voici un exemple, parce que c'est bien d'avoir des exemples. Prenez cette fonction simple, cosinus x plus cosinus racine de 2x. Ah, pas crevant celle-là. Cosinus x plus cosinus racine de 2x. Elle tourne un peu plus vite parce qu'il y a racine de 2 devant. Quand x est passé de 0 à 1, la première a fait un tour, cosinus x, mais la seconde, elle a fait racine de 2 tours. Donc elle va un peu plus vite. Quand vous en faites la somme, à aucun moment cette fonction n'est périodique. Puisque quand vous avez réussi à faire une période en x, vous êtes à racine de 2 fois la période en y, et si vous faites la période en y, vous serez à 1 sur racine de 2 fois la période en x, et racine de 2 est un nombre irrationnel. Autrement dit, cette fonction n'est pas une fonction périodique si je fais x égale y. Donc je trace une droite comme ça, x égale y, et ceci représente la valeur de cette fonction. Les parties blanches sont les parties bosselées, et puis les parties noires ici sont les parties enfoncées, comme ça. Et vous voyez, si je coupe ici, eh bien, je vais faire une espèce de route à travers ces montagnes qui vont passer sur le flanc de l'un, sur le flanc de l'autre, etc., mais ne passeront jamais au même endroit. En sorte que je vais obtenir un cheminement qui aura une allure que sinusoïdale, une allure périodique, mais qu'il ne le sera jamais. C'est ça, une fonction quasi-périodique. Alors, à partir de ça, l'algorithme de construction a été extrêmement simple. C'est la déduction de ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Comment construire un objet quasi-périodique ? Vous allez voir que maintenant, bien entendu, ça va marcher parfaitement avec l'expérience. Nous inventons un espace de dimension supérieure. Ce n'est pas très compliqué, hein, il n'y a pas de taxe dessus. On dit, je vais prendre un espace de dimension 6, et puis on écrit x1, x2, x3, etc., x6. Bon. Dans cet espace de dimension supérieure, nous construisons un réseau périodique. Nous sommes dans les cristaux. Et puis nous dessinons en chaque sommet des petits carrés. Ici, c'est un objet à deux dimensions, qui va simuler un objet à une dimension. En chaque point des petits carrés, nous allons placer un segment qui est perpendiculaire, n'est-ce pas, à la droite horizontale. Et l'algorithme est le suivant, si le segment coupe la droite horizontale ici, vous avez un atome, s'il ne le coupe pas, il n'y en a pas. Par exemple, ici, vous voyez que ce segment vient couper la droite horizontale, je vais donc placer un atome, ici je vais placer un atome, mais celle-ci ne le coupe pas, je ne place pas l'atome. Celle-ci le coupe, j'en place un, etc. Et vous voyez, ces atomes sur les petits points rouges ici, ils décrivent une séquence. Cette séquence est quasi-périodique, pourvu toujours que l'orientation de la droite horizontale ou du réseau soit irrationnelle. Si elle est irrationnelle, on obtient un cristal. Alors tout à coup, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que, tiens, les cristaux, finalement, ce sont des cas particuliers, si j'ose dire, de quasi-cristaux, au sens où je vais pouvoir refabriquer tous les cristaux qui ont été faits jusqu'à présent, ou qui ont été étudiés jusqu'à présent, dans ce formalisme en disant, il suffit que je prenne une droite rationnelle. Donc nous incluons les cristaux. Ce genre de phénomène a eu lieu bien avant avec les mathématiciens, où les nombres irrationnels sont venus compléter les nombres rationnels, P sur Q de forme fraction, hein, un tiers, 3/5, etc. Les quasi-cristaux viennent compléter les cristaux, et ils sont aux cristaux ce que les irrationnels sont aux rationnels. Alors bien entendu, vous allez poser une question, hein, c'est bien de rajouter de la dimension, c'est vrai qu'il n'y a pas de TVA dessus, mais qu'est-ce que ça veut dire, on fait de la physique quand même. Parce que sinon on fait de la pataphysique, n'est-ce pas ? Alors le sens de l'espace complémentaire est extrêmement intéressant. L'espace complémentaire, il a comme propriété remarquable, ce que nous allons imaginer maintenant, c'est que nous sommes des physiciens apprentis sorciers et que nous sommes capables de promener notre espace. Dans ce concept, je vous rappelle que notre espace entier, c'est cette droite, n'est-ce pas ? Et puis l'espace qui lui est orthogonal, mon Dieu, c'est un espace qui nous est orthogonal, nous n'y avons pas accès. Introduire en physique des objets où on n'a pas accès, qu'on ne peut pas mesurer, ça n'a pas de sens. Il faut toujours savoir si on peut le mesurer. Mesurer quelque chose, n'est-ce pas ? Alors là, en effet, on peut mesurer. Ce que je vais faire par la pensée, c'est de bouger notre espace. Nous sommes maintenant, en ce moment, là, dans un ascenseur. Un gigantesque ascenseur, on ne s'en aperçoit pas. C'est un ascenseur d'espace perpendiculaire, dans l'autre espace des quasi-cristaux. Que se passe-t-il pour un quasi-cristal décent lorsqu'il est dans cet ascenseur ? Prenons l'exemple où le quasi-cristal est ici. Ce quasi-cristal donc intersecte, nous avons des atomes en un point d'intersection de la ligne verte avec la ligne noire ici, donc un atome ici, un atome là, puis d'autres. Et puis on va faire descendre l'ascenseur. Donc notre droite noire ici descend. Elle descend jusqu'à arriver, bien évidemment, au bout de ce segment. À partir de quoi elle va rencontrer l'autre segment qui est ici. Donc le point rouge, c'est pour ça que je les ai notés, qui est un atome que nous étions en train de regarder, nous le fixons, il est là dans la salle. Nous descendons et à un moment, il disparaît. Il disparaît au profit d'un autre atome qui lui est immédiatement proche. C'est-à-dire qu'une personne ici a changé de rang. Elle s'est juste, vous êtes décalé d'un cran. Et puis on continue, l'ascenseur, c'est celui-ci maintenant, regardez, qui est en grave danger de pouvoir sauter. Et donc, si nous regardons ici, nous n'avons pas idée de cet espace orthogonal, c'est un espace mathématique, travaillé à plus de 3 dimensions, on ne sait pas faire. Hein. On n'imagine pas dans sa tête. Ce qu'on va voir ici, c'est que dans notre ascenseur, nous regardons ici, nous fixons la salle, et des gens se mettent à sauter d'un siège à un autre. Et puis de plus en plus. C'est ça, l'espace perpendiculaire, c'est un degré de liberté un peu particulier des atomes dans ces objets-là, les atomes peuvent sauter d'un site à un autre. Alors ça, c'était à une dimension. Ça s'appelle des phasons, et c'est actuellement extrêmement étudié, car ça donne une dynamique particulière à ce genre de réseaux, qui ne sont pas des réseaux périodiques. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est plus des images qu'autre chose, mais vous montrer que quand on met de la dimension, c'est-à-dire qu'au lieu de rester de 1 à 2 ici, c'est pas très intéressant, alors on obtient des objets qui peuvent être même jolis. Les tout premiers, tout seigneur, tout honneur, ce sont les pavages de Roger Penrose. Roger Penrose a trouvé ces pavages, que vous voyez ici, en des circonstances qui n'avaient pas grand-chose à voir avec les quasi-cristaux, mais la question se posait de savoir si on pouvait paver l'espace, le plan ici, de façon non périodique, mais avec un nombre fini de tuiles prototypes. C'est-à-dire que nous allons chez notre carreleur et nous achetons deux types de tuiles seulement. Et avec ces, évidemment, nous allons lui demander des tuiles très particulières. Et avec ces deux types de tuiles, nous allons les poser et les construire, construire quelque chose qui soit non périodique. Alors Penrose a trouvé. Penrose a trouvé quelque chose de remarquable, à savoir qu'en prenant un losange ici d'angle 72 degrés, et un autre qui est en clair, et un losange à 36 degrés, qui est en bleu plus soutenu, moyennant un certain nombre de façons de poser les choses, eh bien, il pouvait fabriquer un pavage, dont vous voyez ici un représentant. Ce pavage, d'ailleurs, présente de magnifiques petits objets pentagonaux, ici, et il y en a un peu partout. Et cet objet est non périodique. Alors aujourd'hui, on sait très bien faire ça. Il faut prendre un espace de dimension 4 et faire une coupe de dimension 2 selon une direction irrationnelle de l'espace de dimension 4. Puisque nous sommes dans un espace de dimension 4, je vous montre d'autres pavages bidimensionnels qui sont tout aussi extraordinaires. En voici un, le plus simple de tous, qui est le pavage octogonal. Entre parenthèses, c'est un pavage que vous rencontrerez souvent si vous regardez les éliges marocains. Il se trouve que les éliges marocains du XIIe ou XIIIe siècle savaient énormément de choses, de façon intuitive, sur ce pavage octogonal, celui-ci. Ce pavage octogonal, ici, où vous reconnaissez, évidemment, des figures, hein, des étoiles octogonales. Et ça, c'est aussi une coupe du même espace, de dimension 4, mais bien entendu orientée autrement. Un autre, ici, extraordinaire, celui-ci est dodécagonal. Pour le cristallographe, celui-ci est un supplice. Il est un mélange de réseaux carrés et de réseaux triangles. C'est un hexagonal carré. Alors en effet, il est construit de carrés, vous voyez ici les carrés en bleu, de losanges à 30 degrés, ce sont les petits losanges pointus ici en bleu, bleu aussi, et puis les losanges en beige ici à 60 degrés, qui sont donc deux triangles équilatéraux à coller. Hein. Et cet objet-là a une symétrie 12. C'est-à-dire qu'il faut faire 12 fois la rotation pour réobtenir l'objet initial. Ça, bien entendu, rappelez-vous, nous avons dit tout à l'heure cristallographie 2, 3, 4, 6. 5 points de salut, et puis tous les autres points de salut. 5, 8, 12. C'est-à-dire qu'en augmentant, en mettant des dimensions, tout va bien. Et pourquoi tout va bien? Parce que les matrices que je vous avais inscrites tout à l'heure, les matrices de rotation, étaient essentiellement des matrices qui représentent l'espace de dimension 2 et dimension 3. Si je réécris la même chose dans un espace de dimension 4, la forme de la matrice de transformation dans une rotation de dimension 4 n'est pas la même. Si j'écris les traces, les conditions ne vont pas être les mêmes. Et je vais amener de nouvelles solutions. Voici des espaces de plus grande dimension. Ça, c'est un espace de dimension 9. Alors, ça commence à devenir un peu compliqué, mais c'est parfaitement ordonné. Il n'y a pas une tuile ici qui ne soit pas là où elle doit être. Ça, c'est un espace de dimension 11. Alors ici, j'ai poussé un peu le vis en déplaçant et en me mettant au centre de l'hypercube de dimension 11. Vous voyez à quoi ça ressemble. C'est très joli, ça forme des rosaces comme ça. Là, à nouveau, il n'y a aucun désordre. Tout est parfaitement déterministe. Il n'y a rien qui soit désordonné. Ça vous fait penser, entre parenthèses, que vous observez bien là le fait que l'ordre et la complexité sont deux choses qui peuvent aller ensemble. Nous avons ici un algorithme qui est assez simple. Coupé par un espace de dimension 3, par exemple, comme le nôtre, c'était le cas des cristaux de Schechmann, un grand espace imaginaire, mais mathématique, si vous voulez, de dimension n plus grand que 3, et vous observerez des figures qui sont des figures tout à fait extraordinaires. Alors ces objets ont deux propriétés importantes, et ça sera qui sont les suivantes. Observez à nouveau cette partie d'un pavage. C'en est encore un autre. Il en existe une infinité, bien sûr. Maintenant, le lever, l'interdit du pentagone, l'interdit de mettre des symétries 7, 8, 9, etc., est tombé. Vous voulez de la symétrie 13? Allez, je vais vous mettre de la dimension 12, et puis ça va marcher. Vous voyez, c'est assez simple. Il suffit de payer le prix. Vous observez ici, les gens des cristaux disent, attention, dans les cristaux, au moins, quand j'ai un motif, il se répète. Je revois, c'est mon timbre, sur la planche de timbre, c'est toujours le même. Et ici, c'est jamais pareil. Alors en fait, c'est pas faux. C'est faux. C'est aussi toujours pareil. C'est jamais périodique, mais c'est toujours pareil. Par exemple, vous voyez cet objet ici. Vous le retrouvez là. Vous le retrouvez là. Vous le retrouvez là. Et puis, tous les objets qu'il y a ici, vous les retrouvez un nombre infini de fois, disposés de façon uniforme dans le pavage. On appelle ça, alors, donc, je l'énonce, toute partie finie du pavage, vous prenez un petit bout de pavage, se retrouve un nombre infini de fois dans le pavage. Il n'y a pas de point d'accumulation ou de point désertique où il n'y a pas le dessin en question. Non, ça se répartit de façon uniforme. Vous en avez toujours la même densité. Puis alors, l'autre chose qui est tout à fait extraordinaire, mais celle-ci, je ne vais pas la commenter trop longtemps, c'est que Je vous rappelle que nous sommes dans un ascenseur des espaces complémentaires. Si j'utilise cet ascenseur, je vais changer les pavages. Et les pavages ne se superposeront plus. Mais néanmoins, toute partie finie de l'un se retrouvera dans l'autre et réciproquement. C'est-à-dire que si nous promenons dans un pavage de Penrose qui a été obtenu à une certaine coupe dans l'espace de dimension 4, que nous bougeons la coupe, que nous la faisons monter ou descendre, nous nous promenons dans un nouveau pavage. Mais nous serons incapables de distinguer entre les deux pavages, sauf si nous en avons une image à l'infini, ou une image qui proviendrait de l'espace de dimension 4, ce qui n'est pas le cas. Autrement dit, ces deux pavages qui ne sont pas superposables sont néanmoins indistinguables. Parce que quand vous en regardez une partie finie, dans l'un, vous la mémorisez, vous allez dans l'autre et vous dites « oui, je la retrouve, c'est la même ». Quand vous regardez une partie finie dans une direction, vous la mémorisez, vous regardez dans une direction déduite par exemple l'axe Skinner dans le cas présent, l'axe 5, vous retrouvez la même. Alors, ceci nous conduit à quelque chose qui est très élémentaire, mais qui finalement n'a pas été formulé avant les quasi-cristaux, c'est l'idée de symétrie. Tout à l'heure, je vous ai dit, une symétrie, c'est simple. Pour nous, en tout cas, nous prenons les opérations géométriques qui superposent un objet sur lui-même. Et ces objets sur lui-même, ça sera les opérations... Un triangle, hein, il superpose sur lui-même. Puis on avait deux solutions, ou bien ça superpose, ou ça ne superpose pas. Si on avait posé en 1980 la question aux mathématiciens, pouvez-vous imaginer dans un ensemble de, sur un ensemble de points infinis, ce qu'on suppose pour un cristal dans le modèle, hein, une opération de symétrie qui superpose un nombre infini de points, mais qui ne soit qu'une fraction des points en question, les mathématiciens auraient dit non. Ou bien c'est tous les points qui se superposent, c'est le cas d'un réseau, quand on le translate par rapport à une translation de lui-même. Vous prenez le réseau carré, vous le décalez d'un côté du carré, vous le resuperposez, et vous resuperposez tout. Si maintenant, au contraire, vous prenez un ensemble de points un peu compliqués, quand vous allez le décaler d'une translation de deux points existants, eh bien peut-être que localement, on va avoir des superpositions qui vont être satisfaisantes, mais au fur et à mesure qu'on va s'éloigner du point, la mémoire va disparaître, la géométrie va oublier. En sorte que si nous comptons le nombre de points qui sont en coïncidence, lorsqu'on a décalé le dessin par rapport à lui-même d'une translation, et si nous augmentons comme ça en disant on va compter tous les points qu'il y a dedans, puis ceux qui sont en coïncidence, on va faire le rapport. Puis on va augmenter, 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 ce rapport tend vers zéro. Ça, c'est un objet qui est non ordonné à longue distance. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on oublie. Ici, la chose est extraordinaire. Vous voyez le bleu, le pavage bleu, et le pavage jaune, enfin orange. Ces deux pavages ont été obtenus de façon suivante. Le orange est une copie conforme du premier, à ceci près que la partie que vous voyez ici, sur le bord, là, se retrouve là. Autrement dit, j'ai tourné ce pavage de 45 degrés, puis je l'ai fait descendre, puis je le pose dessus. Alors ce que vous voyez, c'est qu'il y a un nombre de coïncidences qui est absolument exceptionnel. Il est à ce point exceptionnel que les seuls endroits où il n'y a pas coïncidence, c'est là où on revoit apparaître le pavage bleu qui est sous le pavage orange. Par exemple ici, par exemple ici, etc. Il y a un certain nombre de points comme ça. Tous les autres, ils sont en exacte superposition. Si je compte le nombre de points en superposition sur une aire donnée, que je fais croître la taille de l'aire, et que par rapport au nombre de points globaux, eh bien, j'obtiens une fraction finie. Un nombre infini de points se superpose, mais ce n'est qu'une fraction de tous les points. Alors, c'est en ce sens, et toute partie finie du pavage initial qu'on a trouvé dans l'un et dans l'autre, se retrouve dans le second. C'est-à-dire que je vous donne un petit morceau du bleu ou finalement un petit morceau de l'orange. Je pourrais très bien vous dire, cette orange-là, c'est un morceau du bleu, mais là-bas. Vous voyez ? C'est-à-dire que cette partie ici, je vais la retrouver. Cette partie orange qui est la rotation, ben, en fait, elle est déjà dans le bleu, mais quelque part. Quelque part loin, je ne sais pas où, mais elle est quelque part dedans. Et donc, on en est venu à l'idée que la symétrie, l'invariance en physique, ne devait plus être l'invariance géométrique, mais l'invariance physique qui consiste à dire que deux objets sont distinguables ou non à l'échelle locale. Et si bien qu'en guise de conclusion, je vous dirais que la chose qu'il y avait à faire au XXe siècle, qui était simple, c'était d'abord effectivement de faire la liste exhaustive de toutes les opérations de symétrie, de toute la façon dont les atomes pouvaient s'arranger périodiquement dans l'espace à trois dimensions, et puis après de ne pas s'arrêter à trois dimensions, mais de le faire à quatre, à trois, à cinq, six, etc. Aujourd'hui, les espaces les plus visités, si j'ose dire, pour les quasi-cristallographes, sont des espaces de dimension 6, qui correspondent pour nous à la symétrie de l'icosaèdre. Et on sait fabriquer des objets qui sont de vrais cristaux, à 6 dimensions, et qu'on appelle des quasi-cristaux dans leur version 3D, la vraie version, la version physique, n'est-ce pas, et qui ont la symétrie icosaédrique. Deuxième leçon à en tirer, c'est que l'ordre à longue distance dans les solides, qu'on pensait être parfaitement cantonné à des objets périodiques, le cristal, bien un exemple est venu et d'autres vont suivre, où l'ordre à longue distance ne se cantonne pas à la simple périodicité. Nous avons des ordres parfaitement déterministes, beaucoup plus subtils, que la nature semble ravie de choisir dans des cas un peu conflictuels au point de vue d'interaction atomique. Et c'est d'ailleurs mon troisième point, il y a de nombreux types d'ordres qu'on commence à voir, on commence à sentir, qui sont de complexité croissante. Le plus simple d'entre eux, je vous le montre parce qu'il est trivial, c'est le pliage de papier, on vous a certainement déjà parlé. Je plie un papier, et puis je continue à plier le papier dans la même direction. Ça, c'est un algorithme de complexité finie et parfaitement déterministe. C'est-à-dire que si vous le reproduisez, vous obtiendrez la même séquence. Il n'y a pas d'aléatoire. Et puis je continue. Bon, je vais m'arrêter parce que de toute façon, c'est 51 minutes, n'est-ce pas ? Je m'arrête là. Et ce que je vais faire, bien sûr, maintenant, c'est, comme toujours, le mythe de Sisyphe, je vais... Voilà, je l'ai ouvert, et si je l'ai ouvert, si vous le regardez, je ne peux pas le poser transparent, il est trop grand. Mais enfin, ce que vous pouvez voir ici, c'est que, vu en perspective, vous avez des coins, et ces coins de pliures, et les pliures sont de deux types, soit des pliures qui sont vers le bas, soit des pliures qui sont vers le haut. Hein ? Ici, par exemple, j'ai trois pliures vers le haut consécutives, et puis ici, deux pliures vers le bas, etc. Et quand je regarde ça, si j'appelle les pliures vers le bas... A et celle vers le haut B, je fais cette séquence n'est pas périodique, ça se voit, c'est une séquence compliquée, elle n'est pas quasi périodique non plus, il n'existe pas d'espace de dimension finie qui représente cet objet là c'est un autre type d'ordre, c'est l'ordre de la suite de Tue-Morse, et il n'y a pas de raison que la nature ne fasse pas, en particulier en biologie, des ordres de ce genre. C'est parfaitement, c'est parfaitement déterministe. C'est parfaitement ordonné, ce n'est pas périodique. Donc l'avenir, la suite, si j'ose dire, en cristallographie, c'est d'être capable d'intégrer ce genre d'ordre et de substituer au mot cristal ensemble des atomes qui sont répartis de façon périodique dans l'espace, un mot beaucoup plus générique, ensemble des atomes qui sont ordonnés à longue distance. À partir de quoi, nous ouvrons un domaine complètement différent qui pourrait aussi... faire intervenir ou inclure un certain nombre de structures de type biologique. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
J'aurais voulu savoir, vous avez parlé donc des alliages, des premiers alliages fer
aluminium-manganèse.
Aluminium-manganèse, sur lesquels on a observé la symétrie d'ordre 5. Mais est-ce qu'on a observé d'autres matériaux qui présentaient de ce genre de quasi-symétrie ?
Très nombreux. Très, très nombreux. Ils sont actuellement environ une centaine. La plupart sont des alliages à base d'aluminium, qui sont constitués en gros de deux tiers d'aluminium, dirais-je, et puis d'un tiers qui se distribue sur deux métaux de transition. Parmi les plus remarquables, les aluminium-manganèse étaient ceux qui ont permis la découverte et ne sont pas les meilleurs, loin s'en faut. Aujourd'hui, on en fabrique à l'échelle monocristallin, alors je n'ose pas dire monocristallin, monocasicristallin, centimétrique, en particulier l'alliage aluminium-palladium-manganèse. Et pour d'éventuelles applications, si applications il pouvait y avoir, car je ne vais pas parler de propriétés physiques, mais évidemment elles sont du même tabac, les propriétés géométriques, c'est-à-dire un peu exotiques, aluminium, cuivre et fer. C'est très étonnant d'ailleurs que finalement ces alliages n'aient pas été découverts, parce que du cuivre, du fer et de l'alu, c'est vraiment des choses qui ne coûtent pas cher, si j'ose dire. Et de nombreux auteurs métallurgiques ont travaillé sur l'alliage aluminium-cuivre-fer, à telle enseigne qu'en 1936, des Anglais, Bradley et autres, ont fait l'étude du diagramme, c'est-à-dire du mélange aluminium, cuivre et fer. Et ils relèvent dans leur publication, en 1936, une zone du diagramme, qui est bien entendu précisément celle qui les intéresse. Ils disent, là on a trouvé une phase, disent-ils, qu'on est incapable d'indexer, c'est-à-dire de donner un nom au point de vue des rayons X, car il n'avait pas la microscopie électronique, il ne disposait pas de l'observation spatiale des spots. Ce qui a aidé Schechmann, c'est qu'il a vu qu'il y avait la symétrie 5. Ces pauvres Anglais ne l'avaient pas, ils n'avaient pas de microscope électronique. Ils ont dit on n'a pas été capable d'indexer cet objet, on ne sait pas ce que c'est. La manip a été refaite en 87-88 par une équipe japonaise, et ils sont tombés sur un des plus magnifiques quasi-cristaux stables, je veux dire un truc que vous faites dans votre verre. Un verre à 1000 degrés, excusez-moi, et qui se fait tout seul. C'est naturel, hein. Il n'y a pas d'intervention de l'homme, si j'ose dire, il suffit de mélanger de l'aluminium, du cuivre et du fer dans les bonnes proportions, puis de laisser refroidir. C'est comme une recette de cuisine.
Bon, monsieur, il y a beaucoup de questions, un peu dans l'ordre. Voilà.
Ma question est très simple, peut-être un peu rétro d'ailleurs. Est-il possible d'imaginer un quasi-cristal matériel, un quasi-cristal qui aurait une seule brique élémentaire? Parce que pour moi, la cristallographie, c'est, étant donné ce que j'ai appris quand j'étais jeune homme, c'est un pavage de l'espace par une brique élémentaire. Un cube, un dodécaèdre rhombique, etc. C'est-à-dire les objets qui pavent, les polyèdres qui pavent l'espace. Mais en quasi-cristaux, si j'ai bien compris, il me semble que c'est impossible d'imaginer une seule brique élémentaire. Parce que, et je rejoins une remarque d'ordre général, mais qui va être très courte, j'ai toujours été choqué du fait qu'on dise l'interdit du pavage par un pentagone. Ce n'est pas un interdit, c'est une impossibilité.
Très bien.
Personne ne fera que 5 fois 108 égale 360. L'angle est de 108 degrés. Donc l'interdit m'a toujours choqué. C'est une impossibilité. Donc, on parle d'autre chose quand on est dans les quasi-cristaux, d'où ma question, peut-on faire des quasi-cristaux avec deux briques élémentaires?
Une.
Pardon.
Avec excusez-moi. Deux, excusez-moi. Voilà la solution.
Non, excusez-moi, c'est un lapsus. Je pensais on ne peut le faire qu'avec au moins deux, et je pense que, je ne sais pas, j'attends votre réponse, merci beaucoup, parce que c'était très intéressant, ça m'ouvre vraiment des grands horizons.
Alors, vous posez une question totalement actuelle, c'est une des grandes folies actuellement dans le milieu des quasi-cristaux. Donc vous voyez que non seulement votre question n'est pas rétro, mais j'ose dire qu'elle tombe en pleine actualité. Il y a quelques années, 3 ans, je ne vous garde 3-4 ans, peu importe, une mathématicienne allemande a fait une démonstration tout à fait extraordinaire, parce qu'elle se posait votre problème, de dire est-ce que ce pavage de Penrose, je pourrais le représenter avec une seule brique? C'est le rêve du mathématicien. Observez que dans l'histoire des pavages, les premiers pavages ont été étudiés après les célèbres problèmes d'Hilbert au début du siècle, qui se posaient cette question, peut-on faire un pavage non périodique avec un nombre fini de prototypes? Et les premiers prototypes proposés et démontrés comme étant non périodiques avaient jusqu'à 16 000 tuiles différentes. Vous voyez le pulse. Et puis petit à petit c'est descendu, et quand Robinson a sorti son modèle, qui était aussi son pavage, démontré non périodique, il avait 16 tuiles. Et on trouvait que c'était extraordinaire. Et puis, Penrose arrive avec 2 tuiles. Alors, bien, c'est ça, c'est les tuiles à 30. Tout ce qui est pentagonal, étant donné que cosinus 72 degrés, c'est taux sur 2, vous voyez, le rapport il est immédiat, quoi. C'est à cause de ça. Hein. Et donc la question s'est posée. Alors la réponse est oui et non. Elle est oui au sens où il existe une figure unique qui, supposée n'importe où, correspond au pavage que l'on observe, une espèce de figure prototype. C'est un décagone. Ce décagone, vous en avez une idée déjà ici, en quelque sorte. Vous voyez le décagone qui est ici avec cette jolie tuile au milieu. Alors il faut le faire un petit peu plus subtil, un petit peu plus grand, mais c'est cet objet-là. Vous voyez qu'il y a des décagones un peu partout. Le problème qui apparaît, c'est que, alors, quand on le décrit en termes de décagone, il y a recouvrement. Autrement dit, on sait faire une tuile unique, mais avec recouvrement. Alors, ça a beaucoup excité les gens du milieu des quasi-cristaux, mais cette affaire de recouvrement est tuante pour le physicien. Un électron, il n'appartient pas à deux. Hein, il est où il est. Enfin, sa fonction d'onde escalée, excusez-moi. Donc, effectivement, il existe des solutions pour le pavage de Penrose strict avec une tuile. C'est la seule aujourd'hui que je connaisse qui a été démontrée, mais attention, c'est avec recouvrement. Ce qui pose un autre problème mathématique extrêmement intéressant, non pas de la partition de l'espace, mais du pavage de l'espace avec une seule tuile, avec recouvrement.
Monsieur.
Bonsoir, monsieur. Je voudrais savoir, et c'est peut-être une ambiguïté de vocabulaire, je veux savoir si, s'il y a une analogie entre les ondes LED dont vous avez parlé et les ondes LED dont Meyer a parlé ici.
Ah non, excusez-moi.
Bon, alors il y a un peu une ambiguïté de vocabulaire. Oui. Le deuxième point, c'est, je voudrais savoir s'il y a des résultats récents sur la modélisation et sur la simulation en cristallographie, en cristallographie, pardon. Et le troisième, c'est plutôt un commentaire qui rejoint une observation que vous avez faite. À l'occasion de l'année mondiale des mathématiques, il y a actuellement dans le métro des affiches. Et parmi les affiches, il y a 5 affiches, il y en a une sur les pavages.
Oui.
Merci.
Oui, oui, oui. Je confirme votre commentaire. Alors, réponse oui, bien sûr. Bah oui. Voyons, le formalisme en lui-même, il est posé, il est clair. Ce que nous faisons, c'est de la diffraction, c'est-à-dire que nous mesurons, vous avez vu ces pics dont on a parlé tout à l'heure, mais là on fait un peu mieux, on en mesure l'intensité, non seulement la position, mais aussi l'intensité. Et en ayant l'intensité, faisant quelques petits calculs, on montre que ce qu'on observe, c'est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation. Bon, c'est une information qui nous permet de remonter à la structure elle-même. Il faut donc pouvoir être capable de calculer la transformée de Fourier inverse. Quand il n'y avait pas les ordinateurs, seul sur quelques systèmes simples, pouvait être traité avec une somme de cosinus et sinus pas trop grande à la main. Aujourd'hui, avec les ordinateurs, on fait des protéines. Hein ? C'est-à-dire qu'on peut envoyer 1000 tâches ou 10 000 tâches, 10 000 réflexions avec les intensités dans un ordinateur qui, en quelques... Je n'ose pas dire en quelques minutes, parce que des fois, c'est beaucoup plus rapide, nous redonne l'image dans l'espace réel, l'image de la structure. Alors, vous observerez que c'est évidemment un progrès considérable, en particulier en ce qui concerne la détermination des structures biologiques, en pharmacologie en particulier. De nombreuses protéines ou de nombreux éléments actifs au point de vue de la santé proviennent non seulement de la nature chimique du composé, mais aussi de sa stéréochimie, c'est-à-dire comment les atomes se placent dans l'espace. En sorte que cette stéréochimie, cette géométrie, c'est elle qui va permettre à tel centre actif chimiquement, de pouvoir interagir avec notre corps ou ne pas interagir, selon que la molécule est repliée et tirée. Comment savoir ça ? Le microscope électronique est encore insuffisant pour voir ça, car quand on voit les molécules en question, au microscope électronique, c'est sous vide, c'est un faisceau d'électrons, c'est chauffé, les molécules sont dans un état qui est quand même assez proche de la mort clinique. Hein ? Et donc, il s'agit de pouvoir essayer de les regarder dans des conditions où elles vont elles-mêmes se configurer le mieux possible. Le mieux possible, le plus naturellement possible. Comment se configure-t-elle toute seule ? C'est le cristal. On fait cristalliser, tout doucement. Les molécules vont se replier, se mettre dans leur état d'énergie, les unes à côté des autres vont former des cristaux. Une fois qu'on a le cristal, on en fait la structure, c'est-à-dire qu'on fait la diffraction, on fait les mesures, on marche ça sur un ordinateur, et on sort la conformité, comment est faite la molécule en question. Rappelez-vous 1956, c'était quand ? Aidez-moi, Watson et Crick. Bref, l'ADN, l'hélice de l'ADN, ce sont les cristallographes qui l'ont faite, si j'ose dire, qui ont trouvé ça, et ce devait être eux qui devaient trouver ça. Plus avant, Dorothée Hopkins avait fait la structure de l'insuline. Ça a été quelque chose d'extraordinaire, parce que l'insuline, à partir du moment où on a su comment elle a été faite, dans sa stéréochimie, ben on a su la synthétiser, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, la cristallographie est devenue, pour cet aspect des choses, monsieur, une véritable industrie. Je veux dire que toutes les grandes industries pharmaceutiques passent régulièrement dans toutes les grands instruments, ESRF, etc., diamants éventuellement, en Angleterre, soleil, j'espère, en France, toute une série de produits comme ça, qui sont des produits dont on teste la structure afin de savoir si elle sera active ou non pour Donc aujourd'hui, les choses ont changé, c'est devenu pratiquement de la routine industrielle et d'une puissance absolument extraordinaire. On met le cristal, le diffractomètre est automatique, ça collecte les datas, et puis hop, part. Je simplifie un peu, enfin...
Monsieur, je voulais juste dire un mot à propos de la symétrie d'ordre 5 qui pose problème en cristallographie, mais elle existe dans la nature, par exemple, chez les oursins, les échinodermes, vous voyez, il y a une symétrie d'ordre 5.
Voilà. Vous voyez, le point que je n'ai probablement pas bien mentionné, ce n'est pas tant... le problème posé par la symétrie 5, et j'agris tout à fait sur le fait que ce n'est pas un interdit, mais c'est une impossibilité, c'est bien cela, ça ne sort pas dans les solutions mathématiques, c'est la symétrie d'ordre 5 compatible avec la répétition périodique. C'est ça le problème. Hein, on ne peut pas paver l'espace avec des pentagones. Mais un pentagone soi-même, une tomette pentagonale, il n'y a aucun problème pour la faire. Et les références que vous faites, là, sur un objet de dimension finie, un oursin, il va y avoir un centre avec des rayons. Hein, et là, on pourra fabriquer un certain nombre de virus, parmi lesquels les malfamés ont des symétries icosaédriques. Mais ces symétries ne se transmettent pas dans l'espace de façon régulière. C'est un objet avec un centre. Ce que fait le quasicristal, c'est de le transmettre de façon régulière. Regardez ces dessins. Mais non périodiques.
Madame.
Bonsoir, monsieur. Excusez-moi, je voudrais vous poser une question qui n'a pas beaucoup de rapport avec le cours d'aujourd'hui. Quelle est l'étymologie du mot cristal ? J'ai cherché dans tous les dictionnaires, je n'ai pas trouvé. Dans le dictionnaire de latin non plus. Et je me pose la question depuis mon enfance. Je me demande si ça ne vient pas de...
Bah écoutez, je suis heureux de pouvoir vous apporter la réponse. Cristallos, la glace.
Alors, moi j'ai une question. J'ai beaucoup apprécié votre exposé. Je suis
pardon,
là.
Merci.
Je crois qu'on se connaît.
Et oui.
Alors deux points pour prolonger ce que disait le monsieur. Est-ce que vous pouvez affirmer donc qu'un monocristal d'un métal pur ne peut pas faire de quasicristaux. Il faut nécessairement qu'il y ait deux pavés, c'est-à-dire deux atomes de briques.
Ouais. J'affirme ça.
Un métal pur ne peut pas faire de quasicristaux.
J'affirme ça non pas parce que je le comprends, mais parce que je le sais.
Oui,
parce qu'on connaît la structure de tous les métaux purs.
D'accord.
Et ça, qu'aucune d'entre elles n'est quasicristalline.
Ça, il faut le préciser, parce que c'est sûr, et on ne reviendra pas là-dessus. Donc ça, c'est un point.
Oh.
Les métaux purs n'ont que les formes cristallographiques connues. D'accord.
Ouais.
Et alors, le deuxième point, est-ce que je suis un peu déçu, je n'ai pas vu de modèle structural de votre alliage aluminium-manganèse.
Parce que ce n'était peut-être pas l'objet ici.
Vous n'en avez pas là à nous montrer ?
Si, on en a. Non, je n'en ai pas amené. Ouais. Parce que là, on rentre à ce moment-là dans des aspects plus spécifiques de savoir effectivement comment on va en effet réaliser les atomes dans l'espace. Alors, on sait faire ces choses-là. Ça consiste essentiellement à savoir donner les bonnes formes des petits bâtonnets verts dont vous vous souvenez peut-être, que je vous ai montré tout à l'heure à une dimension, qui deviennent des volumes quand on est à trois dimensions, parce que nous travaillons dans l'espace de dimension 6. C'est donc tout le point est de savoir la forme de ces volumes, comment ils se distribuent dans l'espace à six dimensions. Et donc, ça devient assez technique. Et de jongler comme ça avec les dimensions supérieures n'est pas évident, vu que nous n'avons aucune intuition de ce qui se passe. À partir de quoi, donc, c'est essentiellement de la simulation sur ordinateur, où nous regardons à chaque fois les résultats que ça donne dans notre espace, puisque nous ne sommes pas capables de faire des raisonnements sains à six dimensions, ne serait-ce que des raisonnements de géométrie élémentaire. Est-ce qu'un hyperplan de dimension simple coupe une hyperdroite de dimension 2 dans l'espace de dimension 6 et quelle est sa taille générique ? Bon, ça c'est encore simple, mais enfin, c'est pas si simple que ça, on le voit pas. Hein. Et donc, on travaille sur ordinateur. Donc, je l'ai pas fait parce que je pensais que c'est trop technique, ça regarde les gens les professionnels de la chose, et le contenu sémantique que ça est faible. C'est simplement, ça veut dire on sait modéliser les quasicristaux aujourd'hui assez bien. On peut prétendre qu'on sait où sont placés les atomes les uns par rapport aux autres. C'est une chose simple de dire qu'on ne cherche pas à savoir où sont placés les atomes, mais la seule chose qu'on veut savoir, c'est comment ils sont placés les uns par rapport aux autres. Et c'est en ce sens que la symétrie locale, excusez-moi, je voulais le dire tout à l'heure, a un sens physique. On ne s'intéresse pas à savoir où ils sont placés dans l'absolu, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que je pense que c'est pas l'audience, enfin c'est pas le lieu.
Monsieur.
Deux questions, si vous permettez. La première, est-ce qu'il y a une classification des cristaux ? Et la deuxième, sur vos diagrammes, sur vos diapositives, les bords des pavages ont une certaine périodicité, ce qui n'a d'ailleurs rien d'extraordinaire, mais est-ce qu'on peut prévoir dans quelle mesure existe cette périodicité, cette quasi-périodicité ?
Alors, les bords des pavages ici, il n'y a... Parlez de cette circonférence ?
Oui.
Cette circonférence est faite essentiellement parce que le transparent est de taille finie. Je veux dire que le dessin qu'il y a ici se prolonge à l'infini, n'est-ce pas ?
Oui, il y a des régularités.
Ah, ben, bien sûr, c'est quasi-périodique.
Jusqu'à quel point les régularités indiquent qu'on peut ou non faire le pavage si on dessine régularité d'abord ?
Bon, ben ça, c'est la deuxième question grave, importante. Enfin, vous posez une seconde question que j'ai éludée. J'avais l'intention de faire un transparent dessus et je l'ai éludée compte tenu de sa difficulté. Le problème que vous me posez, c'est comment est-ce que cet ordre, vous me dites si c'est bien celui-là, comment est-ce que cet ordre, qui n'est pas trivial, la nature, elle, sans ordinateur, même Windows, peut réussir à fabriquer des objets centimétriques ? C'est-à-dire comment ces objets peuvent-ils croître ? sachant que quand nous posons la tuile, nous sommes extrêmement vigilants à regarder si ça correspond bien à une coupe d'un espace de dimension 5, de dimension 4, etc. Et cette question est sans réponse, monsieur. Elle est non seulement sans réponse, mais elle est extrêmement embarrassante. Parce que nous ne comprenons rien, nous ne comprenons pas pourquoi. Plus nous comprenons la géométrie de ces pavages, moins nous comprenons comment ils poussent. Je vous en donne juste un argumentaire écourté. Il existe pour ces pavages des règles qu'on appelle les règles, des règles locales. S'il y a des amateurs de Peulz ici, imaginez que nous fabriquions, on va peut-être pouvoir se faire un peu d'argent, nous fabriquions un jeu avec des tuiles comme celle-ci. En plus, il y a deux types de tuiles, c'est pas cher à construire, de 161 tuiles bleues et de 200 tuiles beige. Là. Et on met ça dans une boîte, et puis je vous propose de dire, bah, reconstruisez le pavage. Mais attention, il n'y a pas le dessin. Hein. Alors, ce que vous allez faire, c'est prendre vos tuiles, les poser les unes à côté des autres, et puis lorsque vous allez obtenir un angle de 36 degrés entre deux tuiles posées, bah, vous savez tout de suite qu'il faut poser une petite. Et après, quand vous avez des angles un peu différents, qui sont des multiples de 2 pi sur 5, vous avez plusieurs choix. Vous mettez l'un ou l'autre. Parce que vous pouvez soit, par exemple, mettre une petite tuile. Regardez, vous voyez cet objet là, ici, c'est un espèce d'hexagone. Eh bien, au moment où vous l'avez construit, vous auriez pu décider de mettre le losange beige de ce côté, là où il est actuellement, et puis les deux petits losanges bleus du côté où ils sont, ou faire l'inverse. Prendre le beige qui est ici et le poser de l'autre côté, et les deux bleus les poser du côté inverse, ça marche très bien aussi. Or, ça, c'est autorisé, et l'autre, ça ne l'est pas. C'est ça, les règles de la mathématique. Et ce que nous savons faire, c'est, si vous fabriquez un pavage, comme ça, vous l'amenez en disant, regardez, j'ai fait un pavage quasi-périodique. Alors moi, dans mon coin, je vais regarder le pavage, et puis je vais regarder la solution du Peulz. Car il y a une solution du Peulz, on peut dessiner des symboles sur les côtés de ces losanges. Et la règle est simple, le pavage est quasi-périodique si les symboles de chaque côté d'une arête commune à deux losanges est le même. C'est-à-dire que, dans notre jeu de Peulz, lorsque les gens vont prendre les losanges, s'ils les retournent, il y a des dessinés des flèches, par exemple. Et la règle est, lorsque vous avez une flèche bleue, il faut qu'avec un autre, vous mettiez une flèche bleue en regard. Lorsque vous avez une flèche jaune, il faut mettre une flèche jaune. Et alors, ces règles, qu'on appelle les règles locales, ce sont des règles qui ont été établies par André Katz en particulier, et qui sont assez délicates. Je veux dire, ça représente des mathématiques de topologie assez sérieuses, hein. Et la démonstration, en tout cas, a été faite que seul le pavage quasi-périodique parfait admet les règles, satisfait les règles partout. En particulier, le petit hexagone que je vous ai montré, si on l'a inversé, alors si je regarde moi derrière, vous avez mis, ce faisant, une flèche bleue en face d'une flèche rouge, et je vous dirai, ah non, ça ne va pas, il faut mettre la bleue en face de la bleue. Vous voyez, il y a une solution au Peulz. Alors vous allez me dire, ben voilà, c'est fini. La nature connaît les solutions au Peulz, elle n'a pas d'ordinateur, d'accord, mais elle a les solutions et elle va coller tout ça avec les bonnes solutions. Le problème est que ces solutions ne sont pas suffisantes. Elle est suffisante à dire un pavage construit qu'il est bien quasi-périodique, mais elles ne sont pas suffisantes à faire la construction. Car quand vous allez faire la construction, vous arrivez à un moment où il faut que vous mettiez une flèche jaune en face d'une flèche jaune sur un angle de 72 degrés. Alors vous prenez vos pièces et vous dites, je vais prendre cette pièce, il y a une flèche jaune en dessous, il fait un angle de 72 degrés, je peux le poser, vous êtes content. Très bien. Cela étant, il est tout à fait possible que vous ayez pu mettre deux losange fin à 36 degrés avec une flèche jaune de chaque côté. Il y a souvent des solutions possibles qui consistent, vous voyez, cet angle ici étant identique à celui-ci, je peux très bien poser cette tuile ici et les deux bleus de l'autre côté en les retournant. Hein ? C'est toujours cette affaire-là. Autrement dit, il y a toute une série d'endroits où vous avez le choix. Vous faites un choix et vous continuez à construire. Vous arrivez à un moment où à nouveau le choix se pose. Alors vous en faites un autre. Il faut prendre une décision. Puis vous continuez à construire en spirale. Et vous arrivez à un moment où aucune solution ne fonctionne. Alors, ça ne va pas. Alors vous dites, ah oui, mais avant, tout à l'heure, j'ai fait un choix. Alors, je détruis le pavage, je reviens là où j'ai fait mon choix. Après tout, j'ai fait ça comme choix, c'était peut-être pas le bon. Alors, je fais l'autre. Puis je construis. Et puis tout va bien, puis à un moment, aucune solution. Ah oui, mais avant, j'avais fait un autre choix. Alors, je redescends tout. Et ça se crée régulièrement. Il y a un facteur de choix d'ordre 2, c'est-à-dire vous avez deux possibilités, qui se distribuent de façon régulière. Vous comprenez qu'à ce moment-là, le nombre de choix possibles croît comme 2 puissance n, n'est-ce pas ? Et que donc un cristal ne peut pas pousser. Parce que la nature ne va pas perdre son temps à regarder 2 puissance n situations sur 7 cm pour quelques milliards de milliards d'atomes. Et pourtant, ça marche. Donc, vous voyez, ma réponse est... J'en ai pas. Vous posez un problème, qu'on se pose.
On va prendre une dernière question, monsieur.
Vous avez parlé des différents groupes de symétrie des cristaux.
Oui.
Est-ce que dans une même classe, dans le même groupe de symétrie, les cristaux ont les mêmes propriétés physiques ou bien il y a une grande variation?
Ah, grande variation, bien sûr. Nous savons, par exemple, à titre d'exemple, NaCl est cubique à face centrée, le cuivre aussi. Il ne vous viendra pas à l'idée de mettre du cuivre dans votre soupe. Ni du NaCl, d'ailleurs, pour faire de la tuyauterie, n'est-ce pas? Autrement dit, la symétrie cristalline et les propriétés sont tout à fait distinctes. Mais, pour une même classe de type d'atomes, le fer, par exemple, lorsqu'il se présente sous forme cubique centrée ou lorsqu'il se présente sous forme cubique à face centrée, il n'a pas du tout les mêmes propriétés. À composition chimique identique, la structure cristallographique dicte les propriétés. D'accord ? Mais à composition chimique différente, non.
Bien, un grand merci.